partout au Québec. Partout au Québec. Pour tout savoir de l'actualité sportive, voici les amateurs de sport week-end. Voici Pierre Vézina.
Salut tout le monde, bon dimanche, on est le 15 octobre 2017. Bienvenue aux amateurs de sport. Salutations aux gens qui nous écoutent, que ce soit dans la grande région de Montréal, dans la grande région de Québec, dans la non moins grande région de la Gatineau. Et également dans la grande région du monde, parce qu'avec Internet, maintenant, ça a l'air qu'on se rend partout. Alors, salutations également à ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la planète via Internet ou encore l'application Cogeco Live. Évidemment, on va parler beaucoup de hockey. Le Canadien qui a encore une fois plié les chines hier 4-3 contre les Leafs de Toronto en prolongation. Il y avait, par contre, contrairement à plusieurs autres matchs depuis le début de la saison, un peu plus de lumière au bout du tunnel, selon moi. D'abord, il y a eu évidemment le but de Alex Galchenyuk, son premier, et en avantage numérique également. Alors ça, il ne faut pas le négliger non plus. Un but, une passe pour Jonathan Drouin. Jeff Petrie, qui a été l'autre marqueur du Canadien hier. Sauf que les Leafs, oui, parfois, on a eu l'impression que la rondelle roulait pour eux, comme on dit dans le langage du hockey. Mais par contre, Carey Price n'a pas joué son meilleur match. Ne connaît probablement pas non plus son meilleur début de saison. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail avec Benoît Brunet dans quelques instants. Mais auparavant, je vous fais entendre quelques réaction d'après-match. D'abord, Jonathan Drouin qui parle un peu du match d'hier et qui raconte qu'il faut garder espoir.
Peu importe le scénario, que ce soit en overtime ou en oui, tu gagnes un point, mais t'en veux deux. Surtout qu'on est une équipe comme ça, un rival, c'est des matchs que tu peux retirer deux points. C'est des matchs qu'à la fin de l'année, un point va faire changer quelque chose. Ça ne change pas grand-chose en ce moment, mais tu sais qu'à la fin de l'année, ce point-là, il rapporte quelque chose. Alors, c'est à nous encore travailler plus fort, pousser encore plus, mais comme j'ai dit, je pense qu'on a pris un pas dans la bonne direction ce soir.
En bon leader qu'il est, Carey Price a pris une bonne partie du blâme sur ses épaules hier après le match et lui aussi parlait de « bon, on ne peut plus rien vraiment y changer, il faut regarder par en avant puis se concentrer sur les prochains matchs ».
Maybe a little bit, but you know, right now it's all about getting over it. You know, I got another game coming up in a few days and what do? Move on.
Alors ça, c'était Carey Price. Et je vous fais entendre également tout de suite l'entraîneur-chef Claude Julien. Et j'attire votre attention sur des breaks.
Écoutez, on a assez fait ce soir pour peut-être mériter une victoire, mais ça reste que ce n'est pas arrivé. Puis c'est à nous de trouver le moyen. Tu sais, c'est sûr qu'on a peut-être besoin d'un break à un moment donné. Mais le break qu'il nous faut, c'est nous autres qui allons le chercher. Ça fait que faut pas se décourager, mais il faut continuer à travailler puis trouver le moyen de disons, changer le score final.
Je ne sais pas pour vous, mais quand un coach dit on a besoin des breaks pour gagner, pour moi, des breaks, c'est des chances. Je me souviens d'avoir déjà entendu souvent Michel Therrien dans des mauvaises séquences parler aussi de cette façon-là. On n'a pas de break, on a besoin de break pour gagner. Je ne sais pas si c'est moi qui vois ça de la mauvaise façon, mais il me semble qu'à mes yeux, ça sonne « on a besoin de chances pour gagner ». Et si je veux être encore un peu plus mauvais joueur, je pourrais ajouter on a besoin de chance pour gagner, peut-être parce qu'on n'est pas assez bon. Mais je sais pas, c'est peut-être votre évaluation à vous aussi, mais j'ai hâte de parler à Benoît Brunet là-dessus pour voir de quelle façon lui comprend les propos de Claude Julien après le match d'hier. Quoi qu'il en soit, pour les Leafs de Toronto, il s'agissait d'une première depuis janvier 2014. Ça, c'est la dernière fois que les Leafs avaient battu le Canadien. Le Canadien avait remporté 14 victoires de suite avant le match d'hier contre les Leafs de Toronto. Donc, la mauvaise séquence des Leafs contre les Tricolores prend donc fin, entre autres grâce aux deux buts d'Austin Matthews, qui a marqué, entre autres, le but gagnant en prolongation. Et faut mentionner que le Canadien avait déjà, au départ, un bon contrat sur les épaules, avant même d'affronter les Leafs, qui présentaient une fiche offensive assez impressionnante. Ils avaient marqué, depuis le début de la saison, en 4 matchs, 22 filets. Ça, c'est 5 buts et demi par match depuis le début de la saison. Ça, c'était avant la rencontre d'hier. Maintenant, le Canadien est dans l'avion au moment où on se parle, en route vers la Californie, où il va disputer ses 3 prochains matchs, soit mardi à San Jose, mercredi à Los Angeles et vendredi à Anaheim contre les Ducks. Alors, on va maintenant se tourner du côté de Toronto, non pas pour parler des Leafs, mais pour parler de soccer, parce que l'Impact dispute cet après-midi à 17h l'avant-dernier match de sa saison. Un match qui, pour l'Impact, n'a pas vraiment de signification, sauf si on veut parler d'honneur et de fierté. On rejoint à Toronto l'ami Jérémy Filosa qui va assurer la description du match sur nos ondes tout à l'heure. Salut Jérémy!
Salut!
Jérémy, est-ce que c'est assez pour espérer gagner un match contre le Toronto FC, ça, la fierté puis l'honneur?
Ouf! Je ne mettrais pas mon argent là-dessus,
ah non.
Mettons. Ben écoute, on s'en vient à Toronto. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Toronto FC va recevoir avant le match le Supporters Shield, donc c'est le trophée qu'on remet à l'équipe qui a ramassé le plus de points dans la saison régulière. Donc, il va y avoir une petite célébration pour eux avant le match. Du côté de l'Impact, écoutez, Nacho Piatti, toujours pas remis de sa blessure, n'y sera pas. Okay. On va faire place à certains jeunes pour le match d'aujourd'hui. Donc, faut pas s'attendre à ce que l'Impact sorte d'ici avec, comme ils avaient fait il y a quelques semaines, une victoire de 5-3. Je serais énormément surpris. Mais en même temps, écoute, il reste deux matchs, puis il y aura des décisions à prendre sur des jeunes joueurs. Et puis, tant qu'à attendre au camp d'entraînement de l'année prochaine, puis des matchs pré-saison, on est aussi bien de leur donner quelques minutes aujourd'hui. J'ai bien l'impression que Maxime Crépeau, le gardien, va obtenir un départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. On veut le voir. Lui, on va voir de quel bois il se chauffe. Donc, c'est sûr que tu veux jamais venir à Toronto te faire planter parce que les deux équipes se détestent tellement. Mais en même temps, je pense que de faire jouer les jeunes aujourd'hui, c'est plus important que nécessairement sortir d'ici avec les trois points parce qu'au classement, on le rappelle, là, l'Impact est déjà éliminé. Là.
Donc, ce sera un match d'audition pour certains déjà pour la prochaine saison. Là.
Oui, exactement. Donc, on va vouloir les regarder. Comme j'ai parlé de Crépeau, il y a des jeunes qui ont fait le voyage, comme Louis Bélan-Goyette, par exemple. Chamid Chaume, ce choix au repêchage de cette saison, qui n'a toujours pas joué en MLS cette année. Dommage qu'on n'aura pas la chance de voir David Chouanière en l'absence de Nacho Piatti, parce que Chouanière est blessé présentement. C'est un gars qu'on aurait aimé regarder. Malheureusement, il n'a pas fait le voyage avec l'équipe. C'est certain qu'il y aura certains réguliers dans l'alignement aussi. Je ne m'attends pas à voir Patrice Bernier dans le 11 partant parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'il soit à 100% la semaine prochaine pour cette soirée hommage à Patrice Bernier. Je pense que ce sera plus important de s'assurer qu'il soit là, présent, frais et dispo, en santé pour ce match-là que le match ici à Toronto. Peut-être le verra-t-on en fin de match comme substitut, mais pas comme partant.
Tu sais, Walkie, on a déjà vu ça, Jérémy, des équipes qui, en fin de saison, mettent la pédale plus douce pour descendre un petit peu plus au classement pour améliorer son sort au repêchage. Actuellement, l'Impact est 7e dans l'Est, mais à égalité avec 3 autres formations.
Oui.
DC United va finir dernier, ça on le sait. Mais est-ce que l'Impact est quasiment pas mieux de perdre pour améliorer son choix de repêchage? Est-ce que c'est assez significatif?
Écoute, il y a deux choses. Premièrement, tu peux t'organiser pour te mettre dans une situation où tu dis « Moi, je fais jouer les jeunes parce que c'est bon pour mon club », sachant très bien qu'il y a fort probablement que tu ne gagneras pas. Ceci dit, en MLS, disons la vérité, le repêchage, ça arrive occasionnellement que tu as un ou deux joueurs qui peuvent tout de suite s'intégrer à une équipe et faire une différence. Mais normalement, on s'entend. On peut prendre l'exemple de Nick Dupuis que l'Impact a sélectionné au premier tour cette année. Il n'a joué qu'une poignée de minutes cette saison. Donc, ça prend du temps. On voit Kyle Fisher, ça a pris quoi? 3 ans avant qu'il commence vraiment à faire sa place dans le 11 partant de l'équipe. Donc, je ne pense pas qu'on met énormément d'emphase là-dessus. Je vous dirais que plus que la MLS évolue, plus que l'écart se fait grand entre le soccer universitaire et le soccer professionnel de la MLS. Donc, je pense pas que c'est dans dans l'optique là, de l'Impact. Là.
On peut pas avoir la même vision qu'avec le hockey, mettons. C'est pas du tout.
Non, vrai, c'est ça, parce que la coche est vraiment trop haute, trop grande entre le soccer universitaire et le soccer de la MLS. Donc, c'est rare qu'on voit un gars être repêché et vraiment avoir un impact sur son équipe là, rapidement à MLS.
Excellent. Jérémy, merci beaucoup. On te laisse aller pour t'en aller au stade, puis on va se reparler vers 16h30 pour mettre la table pour le match contre le Toronto FC un petit peu plus tard cet après-midi.
Parfait. À tout à l'heure.
Salut. Merci, Jérémy Filosa, qu'on joignait du côté de Toronto. Juste avant d'aller à la pause, je vous donne quelques pointages à jour dans la NFL parce qu'il y a des matchs en cours depuis 13 heures cet après-midi. Atlanta mène 17 à 14 sur Miami. Même chose pour les Redskins de Washington, 17 à 10 sur les Redskins de Washington. Les Redskins sont en avance sur les 49ers de San Francisco, 17 à 10. Donc, les Niners, eux, sont en quête d'une première victoire cette saison. Les Saints de Nouvelle-Orléans mènent 38 à 10 sur les Lions de Détroit. Les Pats de la Nouvelle-Angleterre mènent 21 à 14 sur les Jets de New York. Green Bay tire de l'arrière 17 à 10 au Minnesota. Mais il faut mentionner que dans ce match-là, le quart arrière Aaron Rodgers a quitté le match tôt au premier quart, blessé de toute évidence à l'épaule droite après avoir été plaqué par un adversaire. Et aussi, il y a les Bears de Chicago qui sont en avance 17 à 10 sur les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston qui sont en voie d'infliger une raclée aux Browns de Cleveland, ce qui n'est pas vraiment une surprise. C'est 33 à 3. Les Browns n'ont pas encore gagné un match cette saison, donc tout comme les 49ers de San Francisco. Ce sont tous là des résultats qui sont au troisième quart, donc plus ou moins là, autour du milieu du troisième quart. On parlera de football, évidemment, un petit peu plus tard dans la première heure d'émission avec Bruno Eppel. Pour l'instant, on va s'arrêter quelques minutes et on va revenir avec Benoît Brunet. On va faire l'analyse de ce que le Canadien a fait hier dans la défaite de 4 à 3 en prolongation contre les Leafs de Toronto.